Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio. L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mêlez-vous à vos affaires. Avec Yves Daou et Michel Girard, Cube Radio.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous tenez le fort. On doit quand même se réjouir, c'est décembre, le dernier mois de l'année 2020. Je pense que beaucoup de Québécois ont hâte de mettre cette année derrière nous. On a fini quand même le mois de novembre un peu sur les chapeaux de roue, avec quelques nouvelles qui nous ont laissé un petit goût amer. D'abord, on a appris l'ampleur titanesque du déficit de Justin Trudeau. On parle de 400 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous avez vu la une du Journal de Montréal cette semaine avec le bébé qui illustrait vraiment l'endettement à vie que va nous laisser Trudeau aux générations futures. Et il y a le PM, le premier ministre Legault, qui a annulé nos deux rencontres promises pour nos familles et amis à Noël en raison de l'ampleur de la crise sanitaire, puis qui nous impose une série de nouvelles mesures contraignantes pour commercer. Mettons que les Québécois, on doit avoir la couenne dure. Pour redonner un peu d'espoir, je vous propose un menu qui va vous faire penser à d'autres choses. D'abord, est-il possible de croire encore à un Québec indépendant et viable économiquement à la sortie de cette crise sanitaire? Y a-t-il des entreprises d'ici que les Québécois peuvent être fiers, qui sont éco-responsables, puis dont les produits protègent l'environnement, puis améliorent la planète? Est-il possible vraiment de faire l'achat local de produits sans se tromper s'il est vraiment fabriqué ici? Mais on débute notre émission avec votre portefeuille et l'argent de votre retraite. Sommes-nous plus riches qu'on le pense grâce à la folie boursière? Bon balado! Plusieurs d'entre vous placez votre argent à la bourse pour vos vieux jours. Ou c'est votre planificateur qui le fait à votre place. Depuis la pandémie, la bourse fait du yo-yo avec des hausses et des baisses un peu inexpliquées. Pour nous dire si nous sommes mieux de prendre notre retraite maintenant ou d'attendre encore un peu, on parle avec notre chroniqueur du Journal de Montréal, Michel Girard. Salut Michel.
Salut Yves, on va attendre un peu pour prendre notre retraite.
Écoute, il y a un auditeur qui nous a posé la question suivante. Si j'avais mis 1 000 à la bourse récemment, combien je serais plus riche cette année?
Si j'avais mis 1 000
mm-hmm.
Bon, ben alors évidemment, ça dépend dans quel titre, premièrement, vous auriez investi. Mais si on s'en tient seulement aux indices. Mm-hmm. Alors, bien sûr, l'indice qui a le plus progressé depuis le début de l'année, c'est l'indice des titres de haute technologie, à savoir le Nasdaq de la bourse de New York. Une petite hausse de 36 % depuis le début de l'année.
Bon, c'est bon
ça. Je dis bien 36, donc 360 $ de gains par tranche de 1000 $. C'est vraiment là, exceptionnel. Mais Yves, tu sais comme moi que l'année a été, évidemment, tu l'as toi-même mentionné, en yo-yo. Alors, parce qu'il faut savoir que au début de l'année, jusqu'en février, on atteignait des records, puis bang, on a été frappé de plein fouet en l'espace d'un mois. Les bourses se sont littéralement effondrées. Toujours est-il que le 23 mars dernier, toutes les bourses à travers le monde affichaient des pertes d'environ 35 %. Je dis bien 35 % par rapport au début de l'année.
Hmm.
Alors, c'est énorme. Mais à partir de ce moment-là, il y a eu... puis là, on venait de confiner à travers le monde énormément de secteurs économiques. Or, et puis là, à partir du 23, la bourse a commencé à se stabiliser puis à se redresser. Toujours est-il que 8 mois plus tard, donc jusqu'au 30 novembre dernier, imagine-toi qu'à partir du creux qu'on a connu le 23 mars, alors les bourses ont littéralement explosé. Même la bourse de Toronto a explosé de 54 % entre le 23 mars et... Oui, oui, 54 % là, entre le 23 mars et puis le 30 novembre. La semaine dernière. Donc, et le Nasdaq, lui, a explosé, tiens-toi bien, de 84 %. 84 %. Fait qu'imagine-toi, là, tu avais mis 1 000 $, tu faisais 840 $ de profit en l'espace de 8 mois. Je vais te dire une affaire, il y a bien peu de gens, évidemment, qui en ont bénéficié directement, c'est-à-dire parce que ça prend du nerf, n'est-ce pas, quand les marchés s'écrasent et puis s'effondrent, tu sais, de 35 % à l'espace d'un mois. On ne sait pas si ça va continuer de s'effondrer jusqu'à 50 ou 60 %. Regarde, tout, rien n'est impossible en bourse. C'est tellement volatile. Mais par contre, tous ceux qui n'ont pas bougé puis qui ont conservé leur portefeuille d'actions ou fonds d'actions, peu importe, ou portefeuille équilibré, ben, ils ont profité évidemment de la reprise. Fait qu'ils regardent aujourd'hui leur portefeuille puis ils se retrouvent au même niveau qu'en début d'année ou presque. Donc, ce qui est en soi, évidemment, à souligner, parce que, tu sais, entre nous, là, on est en crise financière, on est en crise sanitaire, mais la bourse, elle, a fait fi de cette crise-là, et puis tous les indices sont en forte hausse. L'explication, c'est que la bourse, il faut toujours se rappeler que c'est un indicateur qui a 6 mois d'avance, donc sur l'état, si l'on veut, de l'économie. Donc, les titres se négocient à prix élevé, en fait, pour plusieurs, tout simplement parce qu'on anticipe que dans 6 mois, l'économie va aller relativement bien, tant aux États-Unis qu'au Canada, qu'en Europe et en Asie.
Bon, mais Michel, moi, je compte toujours sur toi, là, pour, évidemment, pour nos auditeurs, là, de nous parler de ta boule de cristal pour nous dire où investir. Donc, dans quelques minutes, on se reparle d'un autre enjeu qui est quand même important, là. Est-ce une bonne idée que l'État prête autant d'argent aux entreprises? Donc, on se parle de ça tantôt.
L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mêlez-vous vos affaires. Cube Radio.
En pleine pandémie de la COVID-19, le Parti québécois a tenu récemment son conseil national pour discuter de la prochaine plateforme électorale du parti et évidemment du projet indépendantiste. Le nouveau chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, veut une marche rapide vers l'indépendance. Pour parler de cette plateforme électorale, j'ai le plaisir de recevoir le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Bonjour, M. Plamondon.
Bonjour.
Bien, merci d'avoir accepté l'invitation. Vous savez, l'aspect politique de votre projet a fait l'objet de déjà beaucoup d'analyses, mais la dimension économique du programme n'a pas eu un grand rayonnement, et j'aimerais ça qu'on se parle de tout cela ensemble. Je veux vous rappeler d'abord, mon père, à moi, avait 84 ans. Puis depuis des années, il refuse toujours de parler d'indépendance avec moi parce qu'il a peur de perdre son chèque de pension. C'est un peu toujours le même vieux disque qui tourne, là. Selon vous, là, quel est l'élément économique qui va inquiéter les Québécois quand vous allez leur parler intensément d'indépendance du Québec?
Ah, bien, c'est clair que c'est la viabilité financière du Québec dans un cadre indépendant. Et c'est pour ça que dans le programme, tout de suite, j'ai l'engagement, dès cette année, en fait, là, donc on va le sortir en 2021, de faire le budget de l'an 1, parce que c'est un exercice qui doit être fait pour mettre en lumière notamment le coût des dédoublements, le coût aussi des injustices sur le plan des investissements directs. Là. Le premier exemple qui nous vient en tête, c'est la DV, là, où des milliards de dollars de contrats ont été envoyés ailleurs qu'au Québec. Le fait également que le fonctionnement de la Fédération canadienne à l'international fait en sorte que nos intérêts sont régulièrement sacrifiés dans des ententes internationales. Donc, il faut chiffrer le coût pour le Québec d'être dans le Canada, parce qu'en ce moment, tout ce qu'on dit, c'est la péréquation. Donc, on nous répète toujours ce montant de péréquation qu'on reçoit, mais on ne chiffre pas qu'est-ce que ça nous coûte d'être dans une entité qui ne sert pas nos intérêts économiques et qui a un plan économique incompatible avec le nôtre. Regardez, par exemple, l'influence du pétrole albertain sur le dollar canadien et tout le préjudice que ça nous cause au niveau de nos exportations québécoises. Ça a un coût, ça. Et si on ne le chiffre pas, puis on s'entête juste à parler de péréquation, ben on ne donne pas le portrait juste. Et ensuite, sur le plan économique, d'autres questions liées à l'indépendance, à mon avis, dont il faut discuter, c'est la capacité qu'on aura à ce moment-là d'investir au Québec dans des énergies vertes, arrêter de subventionner le pétrole de l'Alberta, faire des choix économiques en fonction de nos intérêts. Parce que dans le contexte du Canada, ce qu'on voit depuis une vingtaine, trentaine d'années, c'est ce que j'appelle la succursalisation de l'économie du Québec, c'est-à-dire que nos sièges sociaux quittent et on devient une économie de succursale, alors que la meilleure manière de s'enrichir, c'est de soutenir nos entreprises d'ici et pour qu'elles restent ici. Donc, je parle beaucoup de ça aussi dans mon livre.
Dans votre projet national, évidemment, vous faites référence à l'idée que vous allez faire le dévoilement de ce qu'on appelle le budget de l'an 1. Vous vous rappelez quand même, à une époque, René Lévesque et Jacques Parizeau, en 1975-76, avaient proposé justement ce budget de l'an 1. On parlait à ce moment-là de stabiliser le fardeau fiscal des particuliers, l'abolition des frais de scolarité dans les universités, le maintien des programmes sociaux générés par le gouvernement fédéral. La question que j'ai pour vous, là, le budget de l'an 1 du Parti québécois, est-ce qu'il va assumer la part de la dette astronomique des milliards de Justin Trudeau?
Ah, bien sûr. C'est ça le drame en ce moment. C'est que nos impôts sont envoyés à Ottawa, mais une fois qu'Ottawa décide de nous endetter de manière irréversible, quel est notre pouvoir, nous, comme Québécois, pour empêcher ça? La réponse, c'est qu'on n'en a pas. Et bien évidemment qu'on va ramasser une grande partie de cette dette astronomique qui est en train de générer le gouvernement Trudeau. Et c'est une autre preuve qu'on serait mieux de décider pour nous-mêmes. Et bon, ensuite, il y a toute la question du ratio dette-PIB. Je pense que malgré le caractère effroyable de la dette, une fois qu'on consolidera la dette canadienne et québécoise, on se retrouvera quand même avec un ratio dette-PIB qui est jouable. Donc, il ne faut pas non plus là, dramatiser, mais c'est vrai que c'est inquiétant ce qu'on voit à Ottawa. Et malheureusement, comme politicien à Québec, à part regarder et constater les dégâts, on n'a pas le pouvoir, même s'il s'agit de nos impôts, de notre propre argent dont il est question.
Je vais vous parler dans votre programme, vous parlez de redécouvrir la défense de nos intérêts économiques puis de combattre ce que vous disiez tantôt, l'économie de succursale qui commence à exister au Québec. Si vous aviez été à la tête du pays du Québec, là, qu'est-ce que vous auriez fait pour empêcher qu'on perde le Cirque du Soleil, qu'on perde Bombardier puis qu'on perdra Transat?
Bien, la première chose que je propose dans mon livre « Rebâtir le camp du oui », c'est d'avoir des entreprises gazelles. Là, on avait déjà eu un programme comme celui-là en 2012, mais des PME gazelles responsables. Et donc, on verra un État québécois qui, comme dans le cas du Cercle du Soleil, on se souviendra que c'est René Lévesque qui est intervenu tôt pour faire décoller ou permettre à cette entreprise-là de décoller. On dirait aux entreprises qui sont prometteuses et qui sont en sol québécois, nous, on va vous encadrer, on va vous donner des avantages, on va bâtir avec vous le cadre de votre succès en investissant avec vous dans l'entreprise. Mais en échange, vous allez nous donner trois conditions. Jamais utiliser les paradis fiscaux, donc payer vos impôts au Québec. S'engager à ce que votre masse salariale vis-à-vis celle des hauts dirigeants ne dépasse jamais un pourcentage raisonnable de la masse salariale de l'entreprise au complet. Et surtout, que l'entreprise s'engage à ne pas déplacer son siège social pour une durée de 25 ans. Ce qui est problématique dans notre époque, c'est que le gouvernement, depuis des décennies, s'est habitué à investir ou donner des congés fiscaux sans contrepartie à nos entreprises. Donc, on donne, on fait des chèques. Et en retour, on ne demande rien. Puis c'était ça le problème de Bombardier. C'est qu'on a mis beaucoup de fonds publics et on n'a posé aucune condition, alors qu'on sait qu'on est devant une multinationale qui n'a pas peur de recourir au Luxembourg ou à d'autres paradis fiscaux. C'était étourdi, là, mais c'était complètement irresponsable comme façon de fonctionner. Un Québec souverain va signer des ententes où, lorsque l'État intervient financièrement, aide financièrement les entreprises, en échange, il y a ce genre de conditions-là, c'est-à-dire pas de paradis fiscaux, puis vous restez au Québec pour 25 ans, puis à ce moment-là, ça nous fait plaisir d'investir en vous. Et c'est inacceptable ou incompréhensible que les gouvernements ne fassent pas ça à ce jour.
Vous avez beaucoup, dans votre programme, parlé de ce qu'on appelle l'indépendance alimentaire. On le sait, là, l'autonomie alimentaire, c'est devenu un sujet important, toujours lié un peu à l'achat local aussi. Seriez-vous prêt, par loi, dans un Québec indépendant, de forcer les épiciers, là, nos grands détaillants, à acheter et à offrir d'abord des produits du Québec plutôt que des produits qui viennent de l'étranger? Je donne un exemple. Moi, je vais chez IGA, je vois des bleuets du Pérou, mais je ne vois pas des bleuets du Québec.
Oui. Ben, je pense qu'on pourrait commencer par mettre en valeur la marque Québec davantage, faire des campagnes en ce sens-là. Je pense également que si on se débarrasse des pesticides au Québec, et là, c'est un enjeu en ce moment parce qu'on découvre que les pesticides, même les plus dangereux, comme le glyphosate, est maintenant utilisé au Québec. Si on rassure la population québécoise en disant tout ce qui est produit au Québec, c'est un standard de qualité supplémentaire parce que on contrôle de manière très serrée les processus d'agriculture, ben, je pense que là, on va avoir un avantage concurrentiel pour les produits québécois parce que les Québécois veulent savoir ce qu'il y a dans leur assiette. Et honnêtement, quand je mange des fruits et légumes qui viennent de l'étranger, quelle garantie est-ce que j'ai en termes des pesticides ou des autres procédés douteux qui ont pu être utilisés? J'en ai pas vraiment. Alors que lorsqu'on produit au Québec, si on met des normes serrées, on aura une garantie de qualité qui donnera un avantage à nos produits. Donc moi, je pense que nos produits québécois peuvent facilement se tailler une large part de marché si on les met en valeur, puis on fait correspondre cette production-là à de la qualité supérieure.
Dans le cadre de votre démarche là, vers l'indépendance du Québec, vous allez parler beaucoup de la décanadisation, toujours un mot difficile, de se sortir un peu du Canada. Puis vous avez dénoncé l'utilisation de nos taxes, nos impôts pour subventionner l'industrie pétrolière albertaine. Si vous étiez à la tête du Québec, là, est-ce que vous seriez prête à bâtir, vous, une vraie industrie de la voiture électrique plutôt que juste une filière de la batterie?
Bien, c'est-à-dire que ce qu'on ferait, c'est qu'on aurait des milliards de dollars pour investir dans plein de secteurs qui nous permettent un virage dans l'économie verte. C'est que ce qui est fou en ce moment, c'est que nos impôts servent à nous pénaliser. Ils sont envoyés à une industrie dont les sièges sociaux sont soit en Alberta ou dans les paradis fiscaux, et ça vient nous appauvrir. Alors que si on prenait cette même argent-là et on l'investissait dans le cadre de compagnies responsables, comme je vous disais tantôt, qui sont dans les énergies vertes, bien, non seulement on créerait de l'emploi ici, on créerait de la richesse, mais on aurait à ce moment-là des entreprises prêtes à exporter, donc ça influencerait beaucoup notre balance commerciale. Mm-hmm. Mais là, au lieu de prendre cet argent-là pour améliorer notre balance commerciale puis créer de l'emploi ici, on s'en sert essentiellement pour se tirer nous-mêmes dans le pied, mm-hmm. tant sur le plan environnemental que sur le plan énergétique. Donc, évidemment qu'il y aurait toutes sortes de filières qui s'ouvriraient parce qu'on aurait tous ces argents-là disponibles pour investir dans en termes de création d'emplois puis de création de richesses. C'est quand on se penche deux secondes sur comment fonctionne le Canada, c'est impossible à mes yeux de ne pas conclure que c'est vraiment désavantageux sur le plan économique. Et c'est pas parce qu'on reçoit un chèque à la fin de l'année pour nous compenser qu'on se trouve dans une meilleure position. Au contraire, moi, je pense que ça engourdit l'économie québécoise parce qu'au lieu d'avoir de l'argent qui est productif, qui est investi de manière productive dans l'économie, on reçoit un chèque à la fin de l'année pour soi-disant nous compenser. Puis encore là, on regarde là, ce qui se discute sur les transferts en santé. Là, c'est pas évident qu'on a notre juste part, les provinces, dans cette affaire-là.
Une dernière petite question qui est peut-être liée plus à l'actualité qu'à votre programme national. À l'Assemblée nationale, présentement, quand on suit quand même ça, là, les journalistes économiques, là, présentement, Québec solidaire et le Parti libéral du Québec sont fortement à l'assaut du gouvernement Legault à l'Assemblée nationale sur les sujets économiques. Et on trouve que pourquoi le Parti québécois n'est pas à l'avant-scène sur les dossiers économiques? Je regarde cette semaine où le Parti libéral a soulevé le fait que le milliard de dollars qui était promis pour les sièges sociaux n'est même pas encore, existe même pas, pourtant annoncé en mars 2019. Pourquoi le Parti québécois est un peu à l'arrière-scène dans les sujets économiques actuellement et que c'est Québec solidaire et le Parti libéral qui ont l'avant-scène?
Mais c'est pas vrai. C'est pas parce qu'ils ont posé des questions en chambre hier qu'ils sont à l'avant-scène. Quand on regarde quel parti a insisté pour qu'en cas de crise, dans le contexte de la crise, on achète québécois, quel parti a dénoncé les achats faits à l'étranger, tant au niveau de nos transports collectifs qu'au niveau de l'équipement de crise. D'ailleurs, c'était Mégane qui a posé une question là-dessus hier en montrant qu'un marché au Québec serait meilleur. Sur plusieurs enjeux, le Parti québécois est très proche, notamment des restaurateurs de l'industrie touristique, fait valoir les intérêts des gens qui ne reçoivent pas l'aide concrètement sur le terrain. Donc, c'est pas parce que le Parti libéral enligne 6 questions sur l'économie que leurs questions sont nécessairement pertinentes. Mmh. Je pense qu'à date, nous, on s'est concentré sur le fait que des entreprises allaient mourir parce que l'aide se rend pas. Puis, on s'est concentré sur la part d'achat québécois parce que le gouvernement Legault se targue d'un nationalisme économique qui, en fait, ne se vérifie pas dans les faits. Même chose quand il y a des sièges sociaux qui sont menacés. On voit un gouvernement qui est très mollasse, qui est très, très lent à réagir. On est intervenu là-dessus. Donc, je pense que nos interventions sont pertinentes, puis sont là où on devrait être compte tenu de notre programme national, notre projet national. C'est-à-dire que c'est très cohérent avec ce qu'on a à dire sur le plan économique.
Bon, mais je suis très content qu'on ait parlé un peu d'économie par rapport à votre programme.
Oui, n'importe quand.
Et on va certainement vous réinviter sur des sujets plus pointus. Donc, c'était Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Daou et Michel Girard démystifient, informent et analysent le monde des finances. Pour que vous puissiez enfin vous mêler de vos affaires. Cube Radio.
Cette semaine, Justin Trudeau nous a annoncé que le déficit du Canada va atteindre plus de 381 milliards. La dette fédérale va franchir le 1100 milliards. Ça va représenter presque 50 % du produit intérieur brut du Canada. Faut-il couper la carte de crédit de Justin Trudeau? On pourrait analyser la situation financière du Canada. J'en parle avec Jean-Denis Garon, qui est professeur en sciences économiques à l'UQAM. Salut Jean-Denis.
Salut Yves.
La dette que va nous laisser Justin Trudeau commence à nous faire peur. Est-ce que c'est un bon retardement pour les générations futures ou est-ce que dans le fond, on ne se retrouve pas tous les pays du monde dans la même situation?
Écoute, dans ton introduction, Yves, tu poses deux questions. La première, c'est est-ce qu'on va trop loin? Est-ce que c'est trop et est-ce qu'on exagère? Et la deuxième, c'est est-ce qu'il faut couper le robinet et est-ce que le gouvernement Trudeau va trop loin? Mm-hmm. Puis, évidemment, c'est tentant. Moi, j'ai vu l'énoncé économique comme tout le monde. C'est un peu des vieilles nouvelles, mais il faut y réfléchir parce que c'est tentant pour le commentateur, tu sais, de dire, écoute, les chiffres, on les a jamais vus, la dette atteint des niveaux qui sont inégalés, ça n'a pas de bon sens, Monsieur Trudeau, vous avez perdu le contrôle, tu sais. Mm-hmm. Sauf que, Yves, je suis retourné dans l'histoire, puis je suis allé voir la crise de 1929, tu sais. Puis c'est intéressant parce que dans le document budgétaire, la ministre
il a fait référence, ouais.
Quand on a eu le crash boursier, en 1929, quand l'économie s'est effondrée au début des années 30 dans les pays industrialisés, on avait des gens qui disaient « Laissez l'économie s'autoréguler, c'est pas l'action du gouvernement, l'endettement, les dépenses publiques qui vont être notre planche de salut. » Et les pays qui ont fait ça, ils ont eu des récessions qui se sont prolongées pendant une longue période et ça a terminé avec une guerre mondiale. Mmh. Alors que certains pays où les dépenses ont été très élevées, et là je te parle de ce qu'on a appelé le modèle suédois, pour lequel il y a un économiste qui a gagné, Gunnar Myrdal, qui a gagné le prix Nobel. La Suède a sorti de crise beaucoup plus tôt et a eu des conséquences économiques beaucoup moins sévères. Alors, pourquoi je te raconte ça? C'est juste parce que je veux que les gens sachent que le gouvernement Trudeau, les conservateurs, qui que ce soit qui aurait été au pouvoir à Ottawa, n'aurait pas eu le choix de dépenser. T'sais? Maintenant, il y a une chose. C'est est-ce qu'on va trop loin? Parce qu'au Canada, le revenu disponible des ménages, mm-hmm. okay, écoute ça comme il faut, là, est plus élevé pendant la crise qu'il était avant la crise. Ouais. Ça veut dire qu'on a pompé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dans les poches des Canadiens. Ça
donnait trop.
La question, ben écoute, moi je l'écris dans la chronique, tu sais. La question que je me pose, c'est tu tout bien réfléchi? Puis je donne l'exemple des rénovations, parce que tu sais qu'il y a beaucoup de Canadiens et de Québécois qui rénovent ces temps-ci. Tu sais, Yves, moi je fais ça aussi ces temps-ci. Puis tu sais, à un moment donné, quand le montant devient tellement gros, quand tu as tellement perdu le contrôle, quand tu es tellement au-dessus, tu as tellement dépassé ton budget, tu finis par arrêter de compter. Puis les gens là, qui nous écoutent à la maison, ils vont comprendre. Tu sais, tu as un projet de rénovation. Tu te dis, ça va coûter 18 000. Tu fais un budget. Tu dis, let's go, tu sais, c'est un gros projet. Ça va faire mal, mais il faut le faire. Puis là, l'électricien arrive chez vous. Puis te demande, veux-tu des thermostats intelligents? Là, tu te dis, tant qu'à faire, tu sais, pourquoi pas? T'sais, puis là, t'as le, t'sais, puis là les entrepreneurs viennent chez vous. Puis là, tu as dépassé ton budget. Puis tant qu'à faire ci, tant qu'à faire ça, tu finis par doubler ton budget.
T'sais? J'aime bien ton idée de cette approche budgétaire de Trudeau. Là. C'est tant qu'à y être, là. On rajoute un élément.
Ben c'est le temps qu'il y aille, tu sais. Puis tu sais, les oppositions ont quelque chose à voir avec ça, tu sais. Tu penses-tu vraiment là qu'un gars comme Pierre Poilievre du Parti conservateur s'époumonerait moins à chialer après le gouvernement si le déficit était de 325 milliards mm-hmm. ou de 295 plutôt que de 400, tu sais. La réponse, c'est non. Mm-hmm. C'est pour ça que moi, j'ai écrit, Yves, que ça prend des cibles. T'sais. Il faut que le gouvernement nous dise, écoutez, voici nous là ce qu'on entrevoit comme sortie de crise et voici jusqu'où on pense qu'on peut aller. Comme ça, on va pouvoir juger le gouvernement par rapport à sa propre mesure d'autodiscipline. T'sais. Puis là, évidemment, tu vas voir des gens comme Jean-Yves Duclos, un économiste là, de haut niveau, Yves, que je respecte, là, qui va nous dire, écoute, On la voit pas, la lumière au bout du tunnel. Il y en a parlé cette semaine dans les médias. On la voit pas. On la connaît pas, notre sortie de crise, mais personne la connaîtrait.
Mais Jean-Denis, il y a beaucoup de gens qui disent que tous les États à travers le monde jonglent un peu avec de l'argent magique. Puis est-ce qu'il y a un magicien quelque part qui un jour va faire disparaître toutes ces dettes-là associées à la COVID? Tu sais, on a eu déjà des pays qu'on a annulé les dettes de certains pays. Est-ce que tu penses qu'il est possible qu'un jour on annule les dettes de la COVID?
Non, Yves, il n'y aura pas de grand reset, c'est ça ta question. Il n'y en aura pas, mais tu sais, c'est important. Tu sais, quand le gouvernement dit il faut maintenir notre PIB, parce que la dette, on la calcule en pourcentage de notre capacité de payer, c'est vrai. Maintenant, c'est vrai qu'on va avoir à repayer à un moment donné, tu sais, que ce soit en repayant le capital ou avec les intérêts sur la dette. Mais c'est vrai aussi que les intérêts, écoute, là, il y a personne qui s'attend à ce que les taux d'intérêt montent drastiquement, là, en tout cas, au moins pour plusieurs années. Alors, on a le temps de se revirer. Alors, non, c'est pas de l'argent gratuit. Mais quand les gouvernements nous disent, que si on laisse l'économie s'effondrer, là, après la crise, il va bien falloir taxer quelque chose. Il va falloir qu'il y en ait une assiette fiscale pour leur payer la dette. S'il n'y a plus d'entreprise, s'il n'y a plus de job, s'il n'y a plus d'entrepreneurs, s'il n'y a plus de capital, on va taxer quoi? Ben, on va taxer ceux qui restent. On va les taxer à des taux plus élevés, tu sais. Puis, j'entends les gens dire, c'est toujours le contribuable qui paye. Ben oui. C'est une définition, arrêtez de dire ça. C'est toujours le contribuable qui paye. Puis présentement, c'est le contribuable qui reçoit. T'sais. Une grande partie des aides, c'est de l'argent qui est envoyé aux Canadiens. T'sais. Moi, je suis surpris de voir des gens qui reçoivent la PCU puis qui s'en vont écrire des commentaires sur les réseaux sociaux en disant « Écoute, c'est le contribuable qui va payer. » C'est un choix de société.
Mais on sait que beaucoup. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui recevaient la PCU qui vont recevoir leur avis de cotisation bientôt, là. Ça fait que je pense qu'ils vont peut-être déchanter en début d'année.
Bien, en partie, il y a des montants qui. Il y a effectivement des montants qui vont être dus. C'est très astucieux de la part du gouvernement fédéral. La question, c'est juste de dire, nous, comme citoyens, les partis d'opposition, pour qu'ils puissent contrôler l'action du gouvernement, c'est dans leur mandat, on doit savoir c'est quoi la limite que le gouvernement se pose, ou c'est quoi ses scénarios, tu sais, c'est quoi le pessimisme, l'optimisme, etc. Comme ça, nous, on va pouvoir les juger de façon objective, parce que en nous laissant dans le flou, ils nous empêchent, nous, comme contribuables, puis comme électeurs, de faire notre travail, ils empêchent les oppositions à la Chambre des communes de faire leur travail. Puis là, dernière chose, Yves, il va falloir qu'on parle des transferts en santé, puis je veux que les gens là dorment là-dessus un peu. Quand la crise elle va être finie, puis quand l'économie elle va repartir, puis il va y avoir des vaccins, là, les systèmes de santé des provinces, eux, vont être pris avec les conséquences pendant longtemps. Des chirurgies repoussées, des conséquences sur la santé de nos aînés, des réformes dans les CHSLD, et présentement, il n'y a absolument rien de concret sur la table pour pérenniser l'aide financière aux provinces. Alors, tu sais, comme on dit en bon français, watch out lorsqu'on va vouloir revenir à l'équilibre. Il faut absolument que les provinces s'allient entre elles puis fassent leur bout pour pérenniser les transferts en santé et les faire bonifier, parce que c'est nous autres qui va passer au cash.
Bon, ben j'espère que la ministre des Finances du gouvernement Trudeau, Mme Freeland, aura entendu ton message. Donc, merci. C'était Jean-Denis Garon, qui est professeur en sciences économiques à l'UQAM.
L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mêlez-vous vos affaires. Cube Radio.
Nous avons posé la question au début de l'émission. Y a-t-il des entreprises québécoises éco-responsables dont les produits peuvent permettre de protéger l'environnement et améliorer notre planète? Et les Québécois peuvent être fiers aujourd'hui parce qu'on en a trouvé une. En direct de Rivière-du-Loup, il y a une entreprise, Première Tech, qui offre des solutions technologiques dans le secteur de l'horticulture, l'agroalimentaire, les équipements industriels et aussi dans les technologies environnementales. Elle est présente dans 27 pays, compte 4600 travailleurs et 1100 juste dans la région ou la grande région du Bas-Saint-Laurent. Pour mieux nous la faire connaître, je reçois son PDG, M. Jean Bélanger. Bonjour, M. Bélanger.
Bonjour.
Les gens se posent toujours la question, une entreprise qui est rendue à cette croissance-là, là, d'où est partie cette idée-là de Premier Tech?
En fait, Premier Tech, l'idée remonte à plusieurs années. On va célébrer en 2023 notre centenaire.
Félicitations.
Donc, Merci, merci. Donc, l'entreprise a débuté effectivement il y a longtemps autour de l'horticulture, donc cette notion-là d'aider à nourrir la planète et ou embellir notre environnement avec les fleurs, les arbres, les arbustes. Et je voudrais, c'est surtout les 30 dernières années qui ont vu l'accélération de la croissance puis la diversification de l'entreprise. Puis c'est un peu là, je pense, votre question vient chercher l'aspect de d'où vient l'idée d'avoir diversifié comme ça. Ça vient vraiment de toutes les compétences, les connaissances qu'on avait dans notre personnel, dans nos équipiers, puis dire comment on peut plus rayonner, comment on ramène la vie dans les sols, comment on peut utiliser cette matière-là qu'on a ici au Québec, qui est la tourbe de mousse de sphinx, une fibre organique, pour protéger notre environnement, traiter les eaux usées. Donc, c'était vraiment dans une réflexion de comment peut-on faire plus avec ce qu'on a déjà, comment peut-on le mettre en musique différemment puis l'amener à atteindre son plein potentiel.
Autrement dit, le savoir-faire qui a été créé il y a presque 100 ans a servi à cette diversification-là aujourd'hui?
Tout à fait, tout à fait. Le savoir-faire, compétences, connaissances, la ressource, la matière première elle-même, la réflexion a été dite. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec? Comment peut-on aller plus loin que juste l'horticulture? Ah, traitement des eaux usées. On a toujours conçu, développé nos propres équipements. Est-ce qu'ils pourraient s'appliquer dans d'autres industries que la nôtre? Est-ce que ça peut s'impliquer dans la nutrition, l'ensachage de nourriture pour les animaux, d'ingrédients, de farine, de poudre de lait? Donc, ça a tout le temps été une réflexion d'innovation, de créativité, de comment bâtir une entreprise qui rayonne de plus en plus.
Vous avez dit récemment que vous souhaitez bonifier votre présence à Rivière-du-Loup, là où se trouve votre siège social, en y investissant 251 millions, qui va se traduire par l'ajout de 500 emplois sur 5 ans. Pourquoi c'est si important, un siège social?
Un siège social, hein, c'est un peu c'est le cœur d'une entreprise, hein, c'est son système cardiovasculaire et pulmonaire, je dirais, hein, c'est ça qui donne le rythme, c'est l'endroit où la culture, les valeurs doivent être excessivement vibrantes, et pour nous, notre siège ici à Rivière-du-Loup, c'est notre ancrage, c'est ce qui nous connecte avec nos métiers, nous connecte d'être une entreprise de région, donc avec des valeurs, une culture qui en est profondément animé. Puis après ça, ça nous permet de rayonner partout dans le monde et de s'assurer que tout ça part comme le moyeu d'une roue. Hein. Le moyeu est important, les rayons ont leur rôle à jouer, la roue elle aussi, mais le moyeu, c'est ce qui tient le tout en un élément intégré qui a une fonction qui est capable d'être réalisée. Donc, le siège d'une entreprise est, je crois, fondamental à sa pérennité.
Évidemment, vous êtes à la tête là, depuis 1999. Vous avez réalisé au moins 25 acquisitions, transformé l'entreprise, comme vous avez dit tantôt. Là. Et beaucoup de gens se posent la question, il y a des entreprises qui évoluent dans des marchés où ce que la technologie, l'environnement concurrentiel force souvent ces compagnies-là qui sont rendues à bout de souffle d'être avalées par d'autres. Puis il y en a d'autres qui disent, nous autres, on a atteint un niveau, puis là, la croissance va passer par les acquisitions. Est-ce que ça veut dire que, Premier Tech, la croissance passe d'abord avant tout par les acquisitions?
Non, pas du tout. En fait, sur les 30 dernières années, 60% de notre croissance est une croissance organique, donc interne, qui vient de nos activités d'innovation, recherche et développement. C'est plus de 300 personnes à temps plein chez Premier Tech, la recherche et développement. Donc, c'est vendre des produits qu'on fabrique, qu'on a déjà, vendre des nouveaux produits qu'on invente. Et les acquisitions sont un accélérateur. Ils nous permettent d'entrer dans des nouveaux marchés. Ils nous permettent de rejoindre de nouveaux clients. Et donc, c'est 40% de notre croissance qui est venue par acquisition. Et ces acquisitions-là servent un peu... on a déjà un excellent moteur par l'innovation, par notre présence commerciale. Et les acquisitions, si je fais une image, c'est comme si on ajoute un turbo à notre moteur. Donc, il devient plus performant, il devient plus puissant. Mais on a quand même besoin du moteur qui est l'innovation, le réseau commercial de l'entreprise.
Souvent, vous savez, beaucoup d'entreprises au Québec profitent de l'aide de l'État sous forme de prêts, d'Investissement Québec, de la Caisse de dépôt, etc. Et beaucoup de questions viennent du grand public qui disent « on donne de l'argent à ces entreprises-là, c'est quoi la garantie qu'on a qu'ils vont maintenir le siège social au Québec, qu'on va conserver la propriété intellectuelle? » Est-ce qu'il y a une façon de faire en sorte que, quand on fait de l'aide publique aux entreprises du Québec, que les Québécois ont des garanties que cette entreprise-là va rester au Québec puis que la propriété intellectuelle va nous appartenir si jamais il y a des acquisitions?
Il y a certainement et définitivement des outils pour le faire. Je crois que les caisses de dépôt, les investissements Québec, les fonds de solidarité du Québec, les utilisent selon les situations. Évidemment, lorsqu'on est probablement dans des entreprises qui sont cotées en bourse où il n'y a pas d'actionnaires majoritaires ou d'actionnaires prépondérants, c'est des fois plus difficile avec la dynamique de marché, des offres d'achat publiques. Quand on arrive dans le cadre d'une entreprise privé comme Premier Tech qui est familial après, donc avec un actionnaire presque unique, majoritaire, à part certains de nos principaux dirigeants qui sont aussi actionnaires, donc des gens tous liés à l'opération de l'entreprise. Puis on arrive avec un, je dirais, avec des engagements puis des garanties qui viennent justement de la présence de joueurs impliqués au quotidien dans la business qui sont là depuis longtemps. Je vous parlais de 100 ans d'histoire, il n'y a eu que deux familles propriétaires de Premier Tech en 100 ans, les fondateurs d'origine qui ont été propriétaires, qui étaient des Américains. Donc, nous, on a racheté en 78 des Américains et on est venu installer le siège mondial ici à Rivière-du-Loup. Donc, depuis 42 ans maintenant, la même propriété, la même stabilité d'actionnariat. Et c'est là, je pense, que vient ce qui vient rassurer des joueurs comme Investissement Québec ou des caisses de dépôt, c'est l'engagement des actionnaires à investir, réinvestir et s'investir eux-mêmes dans la gestion puis le déploiement de l'entreprise.
Premier Tech a déjà été en bourse et sorti de la bourse et aujourd'hui, bien évidemment, vous êtes une entreprise privée, mais vous avez quand même continué des pratiques de transparence financière qui est équivalente à une entreprise publique. Pourquoi vous avez continué à faire ça?
On a continué à faire ça parce que on a été public pendant 20 ans, de 87 à 2007. Donc on venait de la vague des REER, et il y a tellement une belle discipline, une belle rigueur, une belle gouvernance qui se met en place lorsqu'on est une compagnie publique qui permet de communiquer avec toutes ses parties prenantes, que ce soit son personnel, ses fournisseurs, ses clients. Donc, ça permet d'avoir le même message pour tout le monde, une transparence, une mise à niveau de tous les intervenants, de ce que sont les tenants et aboutissants, ce qui va bien, ce qui va moins bien. Pour nous, c'était... on ne pouvait pas imaginer de ne pas continuer à communiquer et à donner cette transparence-là à nos équipes partout. Donc, lors de la privatisation en 2007... on a décidé que ces éléments-là faisaient partie de notre culture, faisaient partie de notre capacité à engager puis maintenir une conversation en continu avec tous nos intervenants, nos partenaires. Et on ne pouvait pas s'imaginer autrement. Ça fait partie de nous.
Vous avez mentionné tantôt le REA, le régime d'épargne-action qui avait été lancé à l'époque par M. Parizeau et par le Parti québécois. Est-ce que vous pensez qu'on devrait relancer cette idée-là? Parce qu'il y a beaucoup de grandes entreprises au Québec, on prend la Couche-Tard et d'autres, qui sont parties, la vôtre, là, qui sont parties à partir de ce régime-là. Ce régime-là, on a mis fin à ça. Évidemment, il y a le Fonds de solidarité qui est là avec les fonds fiscalisés aussi des jardins. Mais est-ce que vous pensez que c'est une idée qu'on devrait relancer d'un régime d'épargne action au Québec?
Je crois que c'est une idée qui devrait être, si ce n'est pas relancé, au moins revisité. Parce qu'aujourd'hui, l'économie est mondiale. Le cycle des affaires s'accélère tout le temps. La nouvelle économie transforme tout. Et on ne peut pas laisser aucun levier, aucun outil potentiel permettant de supporter le démarrage, la croissance, le développement de nos entreprises ici, puis d'essayer de trouver d'utiliser cet outil-là comme un autre moyen de protéger et de bien ancrer des sièges sociaux, de bien ancrer de la propriété intellectuelle ici au Québec.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le début de 2021?
Ben, je pense que on peut se souhaiter tout le monde pour 2021 qu'on soit dirigeant d'entreprise, qu'on soit simple citoyen de tout pays, toute province. Je pense que c'est un retour graduel à une nouvelle normalité, qu'on puisse mettre cette pandémie-là en arrière de nous, qu'on puisse que toutes les entreprises, des plus petites aux plus grandes, puissent travailler dans un contexte de connu, de stabilité, qu'on puisse plus se remettre comme société, individuellement, collectivement, à revivre, puis à reconnecter tout le monde ensemble, parce qu'on... c'est parfait, c'est correct, mais l'être humain a besoin de contact humain, l'être humain a besoin de socialiser, puis on s'entendra dans les 9 derniers mois, on a quelques compromis, quelques contraintes autour de ça, puis je pense que on fait bien de protéger la société en général, mais il y a un déficit, je pense qu'on est en train de bâtir, non pas juste financier, mais un déficit en termes de santé mentale, en termes... de santé physique, parce qu'il y a certainement des gens qui vont avoir des contre-coups de tout ça, puis on va le vivre sur les mois et les années à venir. Mmh. Je pense qu'un retour à la normale serait apprécié par tous.
Ben, je pense que c'est de la musique à mes oreilles et à l'oreille de nos auditeurs, PDG qui parle de son entreprise, qui parle aussi de d'autres éléments qui touchent l'environnement de son entreprise. Et merci de nous avoir fait connaître Premier Tech. Donc, c'était le PDG de Premier Tech, M. Jean Bélanger. Merci beaucoup.
Arrêtez de vous revirer sur un dix scènes.
J'ai eu mon 30 sous.
Yves Daou et Michel Girard vous rendent la monnaie de votre pièce. Vous écoutez, mêlez-vous de vos affaires avec Yves Daou et Michel Girard. Cube Radio.
Michel, on a parlé beaucoup de finances publiques qui accumulent toujours des déficits astronomiques, autant au fédéral qu'à Québec. Bon an, mal an, là, on évalue à 6,2 milliards l'aide fiscale que le gouvernement du Québec, par exemple, accorde aux entreprises implantées au Québec. Donne-t-on trop aux entreprises ou donne-t-on sans trop regarder comment cet argent-là est dépensé?
Bien, moi, j'ai plus l'impression qu'on donne trop sans regarder, sans imposer surtout des conditions, là. Mm-hmm. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y a énormément de conditions. C'est sûr que pour obtenir des crédits d'impôt, bon, tu dois respecter évidemment certaines conditions, il va sans dire, mais c'est surtout qu'est-ce qui arrive quand une société, comme ce fut le cas cette semaine, on l'a vu, là, tu sais, avec Element, la fameuse petite
entreprise d'intelligence artificielle.
Mm-hmm. Ben oui, d'intelligence artificielle, Element AI, qui est passée aux mains d'une société américaine. Or, donc, on a perdu ce fleuron-là. Alors, ce qui arrive, là, c'est que le gouvernement du Québec, tu vois, oui, 6,2 milliards là, en aide fiscale, ça, c'est chaque année, mais de ça, il y en a au moins la moitié qui est versée en ce qu'on appelle des crédits d'impôt, soit des crédits d'impôt remboursables ou bien des incitatifs fiscaux. Il y en a pour 3 milliards de dollars, tu sais, pour, mettons, favoriser l'investissement, pour des mesures de soutien à la nouvelle économie, à la recherche scientifique, au développement expérimental. Regarde, ça ne mm-hmm. finit plus. Alors, moi, je ne suis pas contre le fait que l'on aide fiscalement parlant les entreprises, puis par l'entreprise, mettons, de crédit d'impôt ou autre incitatif. Le hic, c'est que j'aimerais ça qu'on impose des conditions. Par exemple, quand une société, comme c'est le cas de Element AI, passe entre les mains d'une société américaine, ben, je pense qu'on pourrait avoir des conditions qui font en sorte qu'on peut-tu se faire rembourser? Parce que là, ce qui arrive, c'est que tu aides avec le gouvernement par ses subventions, par ses crédits d'impôt, etc., aide les sociétés à se développer, aide les propriétaires de la société à s'enrichir. Puis après ça, à un moment donné, l'entreprise ça vient très belle, arrive une société étrangère qui met le grappin là-dessus. Alors toi, tout ce que tu as contribué financièrement, tu n'obtiens rien en retour, à moins évidemment d'avoir imposé à l'origine des conditions, comme quoi, mettons, on rembourse les crédits d'impôt ou une partie, ou en tout cas, faire en sorte qu'on n'a pas l'air qu'on ne soit pas des dindons de la farce avec toute cette histoire-là. Mm. Tu as contribué à développer l'entreprise, puis toi, tu n'en profites pas financièrement. Puis quand le gouvernement accorde des crédits d'impôt et des incitatifs fiscaux, il faut savoir que c'est à même, n'est-ce pas? C'est de l'argent de moins pour investir en santé, en éducation, dans les services sociaux, etc.
Puis il ne faut pas oublier que les crédits d'impôt à la recherche et développement permettent de développer un savoir-faire, des brevets, etc. Imagine-toi quand ces compagnies-là décident de quitter le Québec ou d'être vendues à des étrangers. On perd tout ce savoir-là, cette propriété-là intellectuelle. Donc, il faudrait quand même qu'on impose des conditions quand on prête de l'argent à ces entreprises-là, qu'une partie de ça reste au Québec.
Ben oui, puis qu'on en profite. Sinon, comprends-tu, on a enrichi, oui, les propriétaires, mais là, c'est l'entreprise étrangère qui met la main là-dessus puis qui va continue, elle, à faire de l'argent avec la compagnie que l'on a développée en même nos impôts et nos taxes.
Donc, c'est un bon message au ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon. Donc, merci, Michel. Donc, c'était Michel Girard, chroniqueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Merci.
L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mêlez-vous vos affaires. Cube Radio.
Cette semaine, on a eu encore beaucoup de nouvelles qui touchent le Québéking. Et pour en parler, je reçois Sylvain Larocque, qui est journaliste et chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Sylvain.
Salut.
La compagnie Lightspeed fait encore l'actualité, une entreprise qui est maintenant cotée à la bourse, qui vaut 7 milliards. Qu'est-ce qui se passe de bon dans cette entreprise cette semaine?
Oui, bien, on l'oublie, mais c'est devenu un fleuron québécois, un jeune fleuron, mais un fleuron quand même, 7 milliards en bourse, comme tu le disais. Et ce qui est arrivé cette semaine, c'est qu'ils ont fait une acquisition aux États-Unis pour un demi-milliard, une entreprise qui s'appelle Upserve. Mais pour faire cette acquisition-là, ils ont émis des actions. Ils en ont émis quand même pas mal et ça a eu pour effet d'éliminer leurs actions à droit de vote multiple. Et c'est ces actions-là qui donnaient au fondateur Bax da Silva et à la Caisse de dépôt le contrôle sur Lightspeed avec plusieurs votes pour chacune des actions. Et il y avait quelque chose dans les statuts de Lightspeed qui faisait qu'au-delà d'un certain nombre d'actions, ils devaient éliminer les actions à droit de vote multiple. Donc, c'est bien qu'ils aient fait cette acquisition aux États-Unis, mais c'est un peu dommage qu'on ait perdu ce contrôle-là de cette entreprise québécoise-là qui est en train de grossir rapidement. Alors, on s'appelle qu'il y avait eu un débat semblable chez Alimentation Couche-Tard il y a quelques années. Alors, c'est quand même une clé importante pour maintenir nos sièges sociaux au Québec, les actions à droit de vote multiple. Alors, il va falloir suivre ça à l'avenir.
Et suivre quand même...
De mieux protéger.
Oui, puis il va falloir suivre, voir si la Caisse de dépôt va s'assurer que ce fleuron disparaît pas compte tenu de tout l'argent que la Caisse a mis là-dedans. Là.
Exactement.
Écoute, il y a aussi deux dirigeants de CGI qui vendent.
Oui, vous vous rappelez, la semaine passée, je vous avais parlé de Serge Godin, fondateur de CGI, qui avait vendu pour 5 millions de dollars d'actions. Alors là, c'est deux VP cette semaine, en fait la semaine dernière aussi, un petit peu après M. Godin, qui ont vendu, qui ont exercé des options. Benoît Dupé, qui est le chef des affaires juridiques, qui a fait un gain de plus de 2 millions de dollars. Et le chef de la direction financière, François Boulanger, qui a réalisé un profit de 1,9 million de dollars de la même façon. Alors, voilà.
On parle beaucoup là, de la production de potes, évidemment, toutes les compagnies de potes qui sont en bourse, etc., mais on parle très peu du hashish. Donc, il y a une compagnie au Québec qui est devenue un producteur important de hashish?
Oui, moi, c'est la première fois que je voyais le mot hashish dans un communiqué financier. En fait, il y a une première à toutes. La compagnie s'appelle Neptune. Ils étaient dans les produits naturels et là, ils ont décidé d'aller dans le pot parce que c'est plus payant, peut-être. Ils vont produire du hashish à leur usine de Sherbrooke qui va être vendu en Ontario et en Colombie-Britannique. Et le PDG de l'entreprise, Michael Camarata, a décidé d'acheter des actions de Neptune au mois de novembre. Et le président du conseil aussi. Donc, ils en ont acheté tous les deux pour 275 000 $. Alors, on leur souhaite bonne chance avec ce hashish produit made in Sherbrooke, si on peut dire.
Avec la pandémie, là, on parle beaucoup là, de la livraison de repas à cuisiner, évidemment, à la maison. Beaucoup de ces produits-là sont disponibles dans les grands détaillants et les épiceries. Donc, Good Food, peut-être que ça va leur donner un coup de main là, avec du financement.
Oui, ben Good Food, qui est basé à Montréal, c'est la plus grosse entreprise de ce genre-là au Canada. On peut se faire livrer des boîtes à la maison, puis il reste juste à les cuisiner. Leur nombre d'abonnés a explosé avec la pandémie parce que les gens peuvent plus aller au restaurant. 33% de plus du nombre d'abonnés. Ils sont maintenant à plus de 300 000 abonnés partout au Canada. Pour alimenter leur croissance, si on peut dire, ils viennent d'obtenir un financement de 46 millions de la part de Desjardins et d'Investissement Québec. Alors, d'après moi, ils vont atteindre le 500 000 d'abonnés dans pas très longtemps.
Bon, bien, merci, Sylvain. Donc, on va continuer à lire ta chronique dans le Journal de Montréal, dans l'œil du Québec Inc. Donc, c'était Sylvain Larocque, qui est journaliste et chroniqueur au Journal de Montréal, au Journal de Québec.
L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mêlez-vous vos affaires. Cube Radio.
La notion d'achat local est sur toutes les lèvres. Les Québécois veulent acheter local, veulent encourager les entreprises du Québec à acheter des produits du Québec. Mais comment définir ce qu'est un produit du Québec? Pour parler de cela, je reçois une nouvelle chroniqueur à notre émission, Anne-Sophie Roy, qui est productrice de contenu de la section porte-monnaie du Journal de Montréal. Salut Anne-Sophie.
Allô Yves.
Bien, merci d'accepter notre invitation à cette émission-là, puis je pense qu'on va parler de finances personnelles avec toi plusieurs fois. La question la question que j'ai pour toi, c'est si j'ajoute un T-shirt chez Simon, qui a été fabriqué au Pakistan, est-ce que je peux dire que c'est un achat local?
Bien, la réponse à ça, Yves, c'est que c'est oui. C'est d'ailleurs une question que je m'étais moi-même posée. C'est une discussion que j'avais eue avec une amie, là, savoir si un chandail que je m'achetais, mais qui a été produit ailleurs, est-ce que c'était considéré quand même comme l'achat local? Bien, après mes recherches, j'ai déterminé que oui, c'était considéré comme tel. L'affaire là, qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de définition officielle, hein, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Il y a non seulement la distance qui nous sépare d'un produit, il y a la provenance des composantes du produit, mais il y a aussi l'emplacement du siège social. Et ces notions-là, ben, ça diffère un peu dans les définitions des institutions. On peut quand même avoir tous notre propre définition de ce qu'est l'achat local, mais je vais quand même vous donner quelques pistes de réflexion là, pour être bien aiguillé lorsqu'on magasine. Puis c'est surtout pour développer des réflexes, pour se poser les bonnes questions, surtout à l'approche des fêtes, parce qu'on le sait, hein, M. Legault et le ministre Fitzgibbon en ont fait vraiment leur cheval de bataille. Premièrement, ce n'est pas transcendant, mais c'est important de regarder les étiquettes. Puis c'est là qu'on se rend compte que les étapes de conception sont vraiment nombreuses. Par exemple, un produit peut être assemblé et distribué au Québec, mais fabriqué en Chine. Ou un autre exemple, un produit peut être conçu et fabriqué aux États-Unis, mais vendu dans une boutique québécoise. Bien, au final, dans les deux cas, on parle d'achat local. Une étiquette, ça aide à faire un peu la part des choses, puis à mieux s'orienter. Puis moi, j'invite les auditeurs à faire le test avec des produits qu'ils achètent souvent, là, sans même se poser de questions, des produits auxquels on est habitué. Je pense à des choses vraiment simples comme le shampoing, la lessive, les vêtements. Puis voyez toujours s'il y a une alternative québécoise possible. Parce que très souvent, il y en a une, l'achat local, l'industrie locale, en fait, s'est vraiment développée au cours des dernières années. Puis je pense qu'en ce moment, il y a un momentum qui est vraiment important à saisir.
Bon, bien, Anne-Sophie, on va te laisser aller faire tes achats de produits locaux. Donc, on est très content de t'avoir comme chroniqueuse ou chroniqueur à l'émission Mêlez-vous de vos affaires. Donc, c'était Anne-Sophie Roy, qui est productrice de contenu numérique pour le Journal de Montréal ou le site web du journal. Merci, Anne-Sophie.
Cube Radio.